Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode 118. Nous sommes en octobre 2013. Je suis Patrick Béja, votre hôte, et j'espère que nous allons vous présenter une émission plutôt intéressante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'émission va être animée parce qu'on va vous parler d'une affaire vraiment liée à la tech, mais qui implique de la drogue, des ordres de meurtre, des assassinats, des réseaux obscur.
Mais c'est GTA.
Mais écoute, ça ressemble à un film de Michael Bay, ou non, peut-être pas Michael Bay, mais en tout cas une affaire dont on pourrait parler dans Breaking Bad, par exemple. Mais c'est bien un truc de tech, et je suis assez surpris qu'il y ait assez peu de gens qui en aient vraiment entendu tous les détails, en tout cas dans mon entourage. Donc on va vous éclairer un petit peu là-dessus. On va aussi parler de plusieurs autres affaires, dont un certain nombre d'innovations gouvernementales dans différents domaines, et plein d'autres petites choses. Et pour m'accompagner dans cet épisode du Rendez-vous Tech, j'ai avec moi, vous avez entendu sa voix suave, Jérôme Kainborg. Comment vas-tu,
bonsoir,
Jérôme
Kainborg? Bonsoir tout le monde. Je suis la voix suave.
Tu es en forme, tu es énergique. Je sais que tu es en plein tournage pour ton test intégral de l'iPhone 5S.
Oui, je fais mes tournages le soir en rentrant du boulot, suant, transpirant. Je suis fatigué, j'en ai marre.
Écoute, toi, tu sais rendre quelque chose d'intéressant et de sexy. Hein.
Ah oui, moi, tout de suite.
J'ai aussi le plaisir immense de recevoir dans l'émission Pop Gozovza,
et
alias Guillaume.
Salut les kids, oui. Eh oui, Guillaume de la voix dans la tête.
Comment vas-tu? T'étais déjà passé dans l'émission il y a un petit moment,
oui,
si je ne m'abuse.
Oui, une fois. On parlait d'un sujet qui n'était pas tellement éloigné. C'était avec Matt Onan et le hack de son compte. Et on va voir qu'il y a un lien avec un des sujets sur lequel on va parler.
Exactement. À l'époque, oui, c'était un hack qui avait fait énormément de bruit. On va parler de hack aussi. Mais commençons avec cette histoire absolument romanesque, au sens que ça aurait pu être un roman d'espionnage, de Silk Road. Alors, c'est un petit peu dense. Je vais le dire dès l'entrée. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble et à la fois assez précise et tout à fait passionnante sur cette histoire, je vous recommande l'article d'Ars Technica. Ars Technica, qui est une publication online de référence sur laquelle on se base souvent quand il y a des articles comme ça de fond, qu'ils soient techniques ou d'enquête. On a un certain nombre de sources, évidemment, mais celle-ci est celle que je préfère et que je recommande. Ils ont un article qui s'appelle « How the Feds Took Down the Dread Pirate Roberts ». C'est un long article et il vous donnera une vision vraiment générale sur la chose. En attendant, d'ici à ce que vous précipitiez sur votre ordinateur ou votre tablette pour le lire, vous avez quand même de la place dans les oreilles pour l'écouter, et on va vous en donner les détails. Alors d'abord, peut-être que on peut commencer par le début.
C'est mieux de commencer par la fin.
Oh, tu sais, parfois, un artifice de tournage ou de
narration. Bon, il s'est arrêté, voilà, j'ai spoilé.
Voilà. Alors, il y a des films qui sont construits comme ça, tu prends.
Mais tout à fait.
C'est vrai.
Oui, ça peut mettre un peu de piquant dans l'histoire. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Silk Road? Pour parler de Silk Road, il faut parler de Thor, non pas le super-héros du Valhalla, mais le réseau complètement.
Michel.
Ou Michel, oui, tout à fait. On pourrait en avoir d'autres comme ça. Oui.
Mais Jérôme, là, j'attendais là-dessus.
Il ne déçoit jamais, Jérôme.
Ah, le tortue. Hein.
Je pense que Thor, c'est suffisamment facile pour qu'on en ait pour tout l'épisode. Donc, Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je suis déjà perdu.
Tor, alors, le réseau
c'est
Tor,
l'acronyme de The Onion Router, le routeur oignon. Guillaume, toi qui es un expert international dans la sécurité et la technicité informatique, peut-être que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit, sinon je le fais. Mais...
Pour simplifier, le réseau Tor, donc c'est une surcouche dans Internet qui a différents aspects, un peu comme un VPN, c'est-à-dire que ça permet de passer à travers Internet sans qu'on voit son activité. Le principe, c'est qu'on rentre dans un point de l'oignon, une entrée de l'oignon, du réseau Tor, on en ressort un autre bout, et au milieu, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, grosso modo, quand c'est comme si, pour aller interroger mon compte Gmail, depuis chez moi, on ne sait pas où je vais, et depuis Gmail, on ne sait pas d'où je viens. C'est un des moyens pour anonymiser le trafic sur Internet. Donc non seulement il est masqué pour tout le monde, c'est très difficile, voire impossible d'analyser ce qui passe à travers Tor, même si bon s'il y a des possibilités, mais enfin bref, c'est assez dur maintenant.
Oui, c'est vraiment presque impossible. Le FBI lui-même n'y est pas arrivé.
Oui. Et après surtout si vous voulez utiliser Tor, ne choisissez que des protocoles qui sont encryptés à la base. Donc FTPS, HTTPS, etc., etc.
Oui. Donc en gros, ce qu'on peut retenir sur Tor, c'est que c'est effectivement un réseau qui permet de surfer, pour simplifier, de manière totalement anonyme et camouflée.
Voilà. Et là, il y a un nouveau style de service qui s'est développé depuis quelques années, qui s'appelle les services Tor. C'est-à-dire que ce sont des sites web, comme là dans le cas de Silk Road, c'est comme effectivement un site eBay, sauf qu'il n'est accessible que dans le réseau Tor, il n'y a pas de sortie.
Donc effectivement, c'est
il est caché.
Il est complètement caché et très très difficile à tracer. Alors ça, c'est la structure du réseau Tor. Le site auquel on fait référence, c'est donc le site qui s'appelle Silk Road. Et ce site, c'est, on disait, l'eBay de la drogue, c'est un petit peu ça. C'est une boutique qui met en relation, à vrai dire, à la base, des gens qui veulent acheter ou vendre à peu près n'importe quoi. Sauf que, évidemment, on peut se douter que si on va s'embêter à aller, parce que c'est pas facile à utiliser le réseau Tor non plus.
Et c'est lent.
Et c'est lent et ça a de nombreux désavantages. Si on veut, on va aller dans une boutique sur un réseau comme ça, il faut que ça soit pour une raison précise. En l'occurrence, c'est un site, pour simplifier, où on pouvait acheter et vendre à peu près n'importe quoi. Quand on dit à peu près n'importe quoi, on imagine tout de suite le pire et en l'occurrence, c'est bien le cas. Il y a de la drogue. Alors, c'est pas la petite boulette de hashish. Hein. On parle d'héroïne, de cocaïne, de choses, de drogue dure. On parle de vrai trafic de stupéfiants. Il y a évidemment du matériel de pédophilie. Il y a des
malwares,
cartes de crédit, voilà, des rootkits, des malwares, des listes de cartes de crédit, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'illégal était en vente sur ce site et également, c'est important pour la suite, quelques éléments légaux aussi. Il y a des gens qui achetaient des choses parfaitement légales sur ce site pour des raisons qui leur appartiennent.
Donc il y a un point aussi important,
oui.
C'est que Silk Road, le seul mode de paiement autorisé, reconnu, c'est le Bitcoin.
Tout à fait. Donc le Bitcoin, dont on vous a parlé plusieurs fois dans l'émission, qui est cette crypto-monnaie, cette monnaie virtuelle, décentralisée, qui n'est pas contrôlée par un point central, qui n'est pas la propriété d'un État. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails du mode de fonctionnement de Bitcoin, parce que on en a déjà parlé et puis ça serait dérivé un petit peu le sujet, mais c'est très important, tu fais bien de le relever, de signaler que c'était l'unique moyen de commerce sur ce site. Alors, un site comme ça, vous pouvez vous imaginer que ça ne plaisait pas au gouvernement et aux forces de police, et on peut bien le comprendre. On parle vraiment, je le précise, hein, je le répète parce que c'est important, on parle vraiment d'une sorte de boutique du grand banditisme, de la mafia. C'est pas simplement des gens qui faisaient des échanges personnels pour aller chercher leur acheter leur leur petite quantité de d'héroïne parce qu'ils étaient accros, c'est vraiment des organismes des organisations mafieuses dont on parle. C'est une immense machine. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars.
Je crois que non, c'est même le milliard de dollars hein.
On est oui.
Ah oui.
Le montant est en milliard de dollars.
D'échanges.
Le volume d'échanges, oui.
Voilà. Alors, évidemment, oui, c'est ça, 1,2 milliard de dollars, tout à fait. Alors, les services de police essayaient de trouver, d'enquêter là-dessus pour y mettre un terme. Ils ont réussi, il y a quelques jours, en arrêtant un jeune homme qui a été présenté comme le, on va dire, l'administrateur système de Silk Road. C'est un homme qui s'appelle Ross Ulbricht. Voilà, je ne vais pas écorcher son nom plus que ça. Et il s'est trouvé que, bien loin d'être un caïd de la drogue, c'était un jeune homme qui était dans sa vingtaine, il avait 28 ans je crois, et qui habitait dans un petit appartement en colocation à San Francisco et qui payait 1000 dollars par mois de loyer et qui vivait donc dans ce petit appartement. Ce qui est assez surprenant, on va dire. Ne vous attendrissez pas trop sur son sort non plus, parce que c'est tout de même quelqu'un qui a commandité deux meurtres. Un premier dont on a appris qu'il s'agissait en fait d'un sting, d'un setup, d'un...
Un indique, une balance,
pas vraiment un indique, en fait, c'était un policier.
Un policier.
Voilà. Qui s'est fait passer pour
un undercover cop.
C'est ça.
Le honeypot.
Qui s'est fait passer pour un assassin, qui a reçu sa demande. Encore une fois, allez lire les articles parce que les conversations sont irréelles. C'est ce gamin finalement qui a une vingtaine, on disait 25-30 ans, qui est un informaticien, un petit génie, enfin un petit génie même pas forcément, mais un informaticien, un développeur qui a grandi aux États-Unis dans un milieu relativement aisé, qui tout à coup se dit alors il y a quelqu'un qui menace le site, enfin le service Silk Road, donc il faut que je trouve un moyen de le faire disparaître. Et il a des conversations avec l'assassin qui sont irréelles. Il dit bon, ok, alors on va faire non, ça fait trop cher, ça c'est pas. Est-ce que tu peux le faire comme ça? Est-ce que tu peux le torturer avant? Oui, mais non, finalement, torture-le pour qu'il me rende mon argent. Et puis après, tu le tues et tu m'envoies une photo. Est-ce que ça te va? C'est bon comme truc? Bon, ok, tu m'as envoyé la photo. Maintenant, c'était un petit peu bizarre, mais ça va. Je me sens bien. Enfin, c'est assez. C'est vraiment un scénario de film, quoi.
Oui, le truc, en même temps, le mec, il est pas en train de commander 50 nuances degrés sur Internet. Il est en train de demander à ce qu'on flingue un mec. Donc, forcément, le protocole est un peu différent.
Oui, c'est ça, exactement.
Tu remplis ta wishlist, adresse de facturation. Est-ce que je dois mettre la même que est-ce que je me fais livrer au bureau ou pas?
Mais c'est exactement ça.
Vu le prix tu payes, j'espère qu'au moins on te fournit une preuve que c'est bien fait.
Bah voilà, exactement. Et donc, il a évidemment commandé son meurtre sur Silk Road. Alors, je vous rassure, sur ce meurtre, il s'est trouvé que c'était donc un policier qui travaillait avec la personne qui avait été arrêtée, en fait. La personne qui devait être tuée avait été arrêtée, et donc, il travaillait avec la police. Par contre, il semblerait qu'il ait commandité un second meurtre, et là, pour le coup, on n'a pas eu de preuve du meurtre. Mais par contre, on n'a pas eu de preuve, enfin, on n'a pas d'indication comme quoi ça ne se serait pas produit. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. Ça, c'est la première partie. Le personnage, donc, un petit peu étrange de Ross Ulbricht. D'où vient Silk Road? Et c'est là que le personnage devient encore plus intéressant. C'est qu'il était un petit peu anarchiste. C'est-à-dire qu'il voulait créer Silk Road, en tout cas selon ses écrits, il voulait créer en Silk Road une sorte d'outil idéal pour... d'outil d'expérience idéal pour essayer de voir ce qui se passerait dans un monde sans, selon ce qu'il dit, sans force, sans violence. Alors évidemment, quand on met en parallèle Le Monde sans violence et les deux assassinats, ça met un contraste intéressant. Mais son idée à la base, ou en tout cas ce qu'il dit, c'était qu'il voulait voir ce que donnerait un monde sans violence. Donc il y a une sorte d'idéal anarchiste dans ce service où il n'y a aucune restriction, aucune loi, aucune présence policière. On voit bien que lui, comme je le disais, n'a pas vraiment vécu en observant ces principes. Avant de retourner vers l'enquête policière, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Est-ce que le service était quelque chose d'intéressant? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ces premières informations?
Moi, pas exactement. En fait, mais peut-être que tu voulais y venir. Ce que je voulais mettre en exergue à ce stade-là, c'est que le projet a commencé en 2011. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a ce gentil gars.
Je crois que c'était 2010. Hein.
Oui, alors c'est le moment où il a commencé à mettre les fondations, mais oui, fin 2010, début 2011. Mmh. Et il a quand même réussi à monter une plateforme qui a brassé donc plusieurs milliards de dollars en 2 ans. Ouais.
Mmh. Oui, ah, c'est sûr que c'est sûr que si tu offres un
en termes de
ouais, tu veux dire que c'est une bonne start-up?
Ah ben, c'est plus efficace que Facebook, hein.
Ah oui, ça c'est sûr, oui. Ah, il s'est fait entre parenthèses ses commissions.
Si tu fais une IPO,
Oui, il s'est fait avec ses commissions environ combien il disait 80 millions de dollars. Hein.
On peut même dire que c'est une killer application, quoi.
tu évoquais une chose, c'était le fait qu'il ait monté le projet. C'est intéressant parce que son surnom, c'est Dread Pirate Roberts. Et les plus cinéphiles d'entre vous, ou les littéraires... Pardon, vas-y, Jérôme.
C'est le pirate de Princess Bride.
Exactement. Et la caractéristique du pirate de Princess Bride, c'était que le nom Dread Pirate Roberts n'était pas le nom d'une personne, ou en tout cas, pas uniquement le nom d'une personne, mais que ce Dread Pirate Roberts donner son nom, quand il partait à la retraite, donner son nom au suivant.
Exactement.
Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, j'allais dire drôle, mais oui, intéressant, c'est que Ross Ulbricht prétend ou dit qu'il n'est pas le premier Dread Pirate Roberts. Mmh. Il dit qu'il y en a eu un qui a monté le service et qui lui a transmis son nom et les clés du service au bout de quelques temps et que lui n'en était que le gardien. Donc, il serait possible que le vrai Dread Pirate Roberts soit encore dans la nature, ou en tout cas le premier Dread Pirate Roberts. Ça serait... Enfin, là encore, on a ces éléments de roman un petit peu inimaginables dans ce type de situation.
Moi, juste sur ta première partie, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui...
Oula, la conspiration.
Trafiquer de telles quantités de drogue sans que la mafia, celle ne tire pas une bastos dans la tête avec 1 milliard d'échanges. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. Depuis que je lis cette histoire, pour moi, il y a une pièce qui manque. Mais je te laisse conclure. Je ferai peut-être une conclusion plus générale. Mais je pense que ce type-là est un pion qui saute, mais le vrai truc est caché, quoi. La vérité est ailleurs.
Non, Jérôme, à mon avis, en fait, les personnes qui agissaient sur Silk Road, les clients, à mon avis, c'est du demi-gros. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le marché de la drogue. C'est pas les cartels qui faisaient leur deal là-dessus. Par contre, c'est tous ceux qui se retrouvent avec des quantités avant de fournir aux dealers, aux distributeurs de rue. C'est ceux qui sont en train de négocier des paquets qui sont quand même assez importants, assez volumineux, mais qui ne font pas l'approvisionnement de départ.
Non, et puis surtout, moi je pense que c'est un service pour les malfaiteurs. pour les gens qui ont des activités illégales. Ils veulent pas que ça disparaisse.
Mais bien sûr. Non, mais bien sûr.
Ah oui, tu veux dire
Ils veulent bien que ça existe. Ils veulent que ça marche. Mais ils laissent pas un milliard de chiffre d'affaires, se balader sans mettre la main, dedans, la main dessus.
Peut-être, mais je sais pas, sur un milliard, si évidemment, il y a quelqu'un qui serait intéressé par les 80 millions de commission, mais d'un autre côté, peut-être qu'ils veulent simplement que ce service existe en dehors de leur.
Je suis pas d'accord hein. Sur le modèle économique. Je suis pas d'accord. Déjà, je te rappelle que Silk Road, il faisait il prenait une com qui était de l'ordre de 8 à 15%, ce qui est quand même loin des 30% d'Apple. quand tu es dans l'économie de la drogue. Où tu ne fais que du bénéf, hein, grosso modo. Le problème n'est pas tellement de ne pas perdre d'argent avec des transactions, c'est en bout de chaîne de pouvoir le blanchir. Donc, si tu as une perte de 8% ou de 15%, tu t'en fous complètement, parce que tout problème de la drogue, c'est tu fais énormément d'argent avec, et il faut pouvoir le blanchir pour pouvoir ensuite le réinjecter dans l'économie réelle.
Oui, non, mais je sais. C'est juste que, justement, ce service est trop beau pour la mafia, pour qu'il le laisse dans les mains d'un illuminé anarchiste, et que ce type, pour moi, est un fusible, et il est même payé pour être le fusible, c'est-à-dire que ça commençait à sentir le roussi, et ils ont fait sauter un fusible, mais il va reprendre sous un autre nom, le service, très rapidement.
Disons que le service, ou un service similaire, va probablement revoir le jour, ça serait pas du tout surprenant, d'autant plus que, alors, il y a deux éléments, d'une part, les gens qui utilisaient ce service, on espère pour eux qu'ils l'utilisaient de manière protégée et anonyme, parce que le FBI a aujourd'hui accès à tous les serveurs, à récupérer les informations des serveurs de Silk Road, et a donc toutes les transactions, tout l'historique, tout l'archivage.
Ça va faire mal.
Ça risque de faire mal. D'un autre côté, on aurait pu penser que le gouvernement américain avait réussi à pénétrer Tor, où on aurait pu imaginer que c'était le cas pour qu'ils réussissent à récupérer les informations dont ils avaient besoin pour retrouver ce brave Dread Pirate Roberts. Et avec le climat qu'on a autour de nous depuis les révélations d'Edward Snowden et de Prism, on aurait pu se dire que s'ils avaient réussi, grâce à des outils informatiques de surveillance améliorés, obtenir des informations sur ce jeune homme, il l'aurait montré et il l'aurait paradé pour dire regardez, la surveillance fonctionne et ça donne des résultats et c'est pour ça qu'on en a besoin. En l'occurrence, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que la manière dont ils ont retrouvé ce type, c'était par un travail de police, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne vais pas vous ennuyer avec toute la chaîne d'événements qui a amené à son arrestation, mais sachez que l'un des éléments au départ essentiels était que Ross Ulbricht a fait une erreur de débutant, c'est-à-dire qu'il est allé sur un forum bien connu de développement, hein, qui n'a rien de mafieux, qui s'appelle Stack Overflow, et il a demandé sur le forum... il a posé une question sur le fonctionnement de certains des services et des logiciels qu'il voulait mettre en place. Des choses pas non plus totalement illégales, mais qui étaient, qui pouvaient donner la puce à l'oreille, on va dire. Et l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est enregistré sur ce service avec son vrai nom. Alors, il est ensuite allé le modifier une minute après, mais c'était trop tard. Et c'est l'un des éléments essentiels qui ont fait que la police a ensuite fait des recherches sur, par exemple, ils ont fait des recherches sur les premières mentions de Silk Road sur le net. Et quand on parle de recherche, j'exagère à peine, il s'agit de simples recherches Google, quoi. On va chercher de quand date la première mention sur le net quelque part de Silk Road, les gens qui auraient besoin de telle ou telle technologie pour concevoir un service de ce type, ces technologies, on va faire des recherches dessus aussi, et on va analyser, alors évidemment ça fait beaucoup de monde qui va en parler, mais c'est pas des quantités ingérables. Ça va être, je sais pas, quelques centaines de personnes, et puis on fait du cross-referencing, comme on le voit dans les films d'espions, et puis on réduit la liste des suspects potentiels, etc., etc. Donc, on a vraiment un travail de police admirable qui a conduit à l'arrestation du jeune homme. Et c'est quelque chose de notable, puisque on est, comme on le dit régulièrement dans l'émission, dans un climat où les forces de police, ou certaines forces de police en tout cas, veulent justifier de leur l'augmentation des moyens de surveillance. Donc ça, c'était quelque chose à noter. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais il y a certainement des choses à dire.
Il a quand même fait des boulettes énormes, parce que là, t'en as évoqué une, mais il a acheté aussi des papiers, des faux papiers, qui s'est fait livrer. Enfin, je sais pas, quand t'es à la tête d'un truc comme ça.
Qui s'est fait livrer chez lui, oui.
Oui, qui s'est fait livrer chez lui. Je sais pas, de ce que j'en lis, peut-être que je me trompe, mais ça a l'air d'être le fusible un peu con-con. On lui a transmis le bébé en sachant très bien qu'il allait sauter parce que c'était un simple anarchiste ou je sais pas. Et enfin, je sais pas. Ça me semble bizarre qu'un truc comme ça soit aussi mal fagoté sur des détails, quoi.
Non, mais enfin, je suis pas d'accord, Jérôme. En fait, quand tu regardes, effectivement, rétrospectivement, enfin, la dernière fois, la dernière émission où j'étais venu, j'avais dit ce proverbe: quand la roue du chat a brisé, beaucoup de gens vous diront par où il ne fallait pas passer. Il a commis plein d'erreurs, mais qui étaient totalement disparates. Et avant les révélations de Snowden, on n'aurait pas imaginé qu'on puisse aussi facilement recouper des choses qui étaient l'accès sur un forum à tel endroit, un WordPress à tel autre. Et
En l'occurrence, ils n'ont pas utilisé Prism pour recouper
tout ça.
Non, non.
Enfin, pas Prism. Enfin, je pense qu'ils ont tapé pas mal de bases de données pour pouvoir remonter 2 ans en arrière sur certaines choses. Enfin, bon.
Bah, tu sais, Stack Overflow, ils ont leur base de données, enfin leur compte et l'historique des comptes, hein, donc.
Oui.
Enfin bon, bref.
Mais bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire, et donc je te redonne la parole.
Non, mais c'est vrai que ça paraît évident qu'il a fait toutes ces erreurs, mais
il est jeune, il est jeune.
Oui, c'est ça. Moi, à mon avis, là où je te rejoindrais peut-être, Jérôme, je dirais que c'est pas impossible, c'est avec cette histoire de transmission du titre de Dread Pirate Roberts,
ouais.
Parce que il est pas, moi, il me semblerait pas impossible qu'il soit effectivement à l'origine du truc et qu'il soit dit, attends, je vais essayer de monter un forum. C'est, techniquement, ce qu'il a fait est intéressant, mais c'est pas un truc de génie non plus.
Non.
C'est un petit peu un truc qui pouvait arriver, et que presque n'importe qui pouvait faire. Bon, il se trouve que c'est lui qui
gérait. Comme Facebook.
Mais exactement. D'un autre côté, si il y a effectivement une sorte d'entité noire masquée derrière qui a monté le truc et qui ensuite s'est dit bon, là c'est monté, je vais peut-être pas rester au milieu du truc parce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que ça va être, et puis au bout d'un moment ils vont nous retrouver, donc je vais le filer à machin, et puis quand il sautera, on refera d'autres choses, et peut-être qu'effectivement là on parle d'une sorte de d'entité étrange qui serait peut-être plus géré par la mafia ou par des organisations qui auraient besoin d'un service comme Silk Road. C'est une théorie un petit peu sortie de nulle part, mais pourquoi pas.
Le fond de ma pensée, c'est que Silk Road est une bêta. Et ouais, ils ont pris un bêta pour voir les erreurs qu'il fallait pas faire avec ce genre de truc, mais c'est une bêta du service. Et là maintenant, ils ont vu effectivement comment. Et d'ailleurs, les policiers, enfin la NSA et tout ça, fait très attention de pas dire comment ils l'ont chopé, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui les observent pour justement colmater les brèches. Mais c'est évident que le monde de la drogue s'intéresse à Internet à des niveaux très très hauts. C'est un système de distribution absolument génial.
C'est sûr. Bon, dernière petite note en rapport avec cette histoire que tu as évoquée tout à l'heure, Guillaume. La question des bitcoins. J'en parlais dans This Week in Tech hier, où j'ai eu la joie d'être invité, et Patrick Norton disait une chose que j'ai relevée, c'était le fait que le gouvernement a donc saisi les bitcoins de Ulbricht. En tout cas, ils ont saisi la partie qu'ils ont retrouvée, qui est une partie relativement minime, il semblerait que il représente combien ils avaient dit que Silk Road représente 15% de la totalité, voilà, 15 à 20% de la totalité des bitcoins disponibles dans le monde aujourd'hui. Et donc d'une part, le FBI compte, après la fin de la procédure judiciaire, revendre les bitcoins, parce que c'est un objet saisi qu'ils vont revendre comme n'importe quel autre objet saisi pour les raisons habituelles, hein, pour financer les choses, et puis ils vont pas les laisser dans un entrepôt, en l'occurrence sur un disque dur. Et d'autre part, donc ça, d'une part, ça légitimise un petit peu l'aspect réel, on va dire, à défaut de dire l'aspect financier, monnaie en tout cas, de bitcoin. D'autre part, l'autre chose, c'est que le cours du Bitcoin a baissé de, là encore, environ une quinzaine de pourcents, ce qui veut dire que le cours du Bitcoin réagit comme une véritable monnaie. Mm-hmm. Donc,
oui, et alors il y a d'abord, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y a un autre article qui montre, qui fait la corrélation entre les différentes activités en rapport avec Silk Road et le cours du Bitcoin depuis 2 ans.
Tout à fait, oui, qui sont assez frappants. Il est assez frappant de voir que les courbes se suivent.
Mm-hmm. Et alors, l'autre question qui me vient, c'est quelle est la position de l'État, des États-Unis par rapport au Bitcoin, et en quoi, je ne sais pas si c'est la CIA ou l'FBI qui ont saisi cette monnaie, qui est, je crois, n'est pas reconnue par les États-Unis. Donc, si elle n'est pas reconnue, comment peuvent-ils la revendre?
Bah, disons que c'est,
d'un point de vue juridique, c'est un problème intéressant.
C'est intéressant, ouais, certain, mais même si c'est pas une monnaie, alors il faudrait demander un spécialiste, un juriste, mais même si c'est pas une monnaie, c'est une propriété qui a une certaine valeur. Le fait que ça soit pas une monnaie en tant que telle ne veut pas dire que c'est pas que la chose n'a pas une valeur. C'est deux problèmes séparés en quelque sorte.
Oui, mais Patrick, je comprends ce que dit Guillaume. C'est un peu comme si les policiers, la drogue qu'ils avaient saisie, ils revendaient la drogue parce que a une valeur.
Non, je suis désolé, c'est pas la drogue, Jérôme. Mais
la question de Guillaume, elle est légitime. C'est aujourd'hui, l'État américain ne reconnaît pas encore le Bitcoin comme une valeur monétaire, il le légitime en le vendant. En même temps, comme on est en train de leur couper tous les budgets, je pense qu'ils vont pas faire la fine bouche, mais ça fera du beurre dans les épinards.
Mais disons que c'est sûr que c'est une dichotomie intéressante, mais l'un n'est pas forcément exclusif avec l'autre. Le fait qu'ils ne le reconnaissent pas comme une monnaie en tant que telle ne veut pas dire que, par exemple, je ne sais pas, si c'est des lingots d'or, les lingots d'or, ce n'est pas une monnaie, mais ça a une valeur. Enfin, tu vois,
oui,
ce
mais bien sûr. Alors, en prenant l'exemple de la drogue, j'étais peut-être choqué, mais par exemple, quand on combat les fraudes, quand les douaniers saisissent des faux sacs Vuitton, ils ne les revendent pas sur le marché derrière. Ils les
brûlent. Mais bien sûr, mais les bitcoins ne sont pas considérés comme quelque chose d'illégal. Il y a vraiment deux éléments à séparer. Le fait que ça soit légal ou non et le fait que ça soit une monnaie ou non sont deux choses bien distinctes. Mmh. Bon, évidemment, le fait qu'ils les revendent légitimise un petit peu la chose, mais c'est un petit peu... Pardon,
parce que dans les mois derniers, j'ai vu différents États reconnaître le Bitcoin comme une monnaie. Et par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas des États-Unis. Et donc, justement, c'est dans ce sens-là... Ouais. Parce que il me semblait avoir lu comme quoi, par principe, les États-Unis étaient contre le fait de reconnaître cette monnaie. Mmh. Et donc, si effectivement ils ne le reconnaissent pas, donc ça n'a pas de valeur, d'un point de vue juridique, donc comment le revendre ? C'est ça. Mais donc, ils trouveront bien une justification et ça sera intéressant de la décortiquer.
C'est sûr. Bon, on a fait on a passé une petite demi-heure sur le sujet. On va. franchement, moi, c'est un truc qui me passionne et je vous encourage encore, chers auditeurs, à aller lire l'article de Ars Technica. Il est absolument fascinant et c'est encore une fois quelque chose de vraiment assez incroyable dans notre monde où la chose la plus excitante qui arrive généralement, c'est Google qui annonce des nouvelles lunettes. Là, c'était quelque chose d'un petit peu différent, on va dire.
Moi, j'attends le film. Je pense que ça va être un mélange entre Blow, Warlord et Opération Espadon.
Et tu fais une série et chaque saison, c'est un nouveau pirate. Tu vois, c'est transmis à chaque fois. Ouais, ça fait
un peu
série.
Comme le numéro 6 dans Le Prisonnier. Le numéro 1.
Hollywood, contactez-moi, j'ai les droits de l'idée. Hein, là.
Et tu l'as dit ici, donc...
Je l'ai dit ici et je veux des paiements en bitcoin.
Bah, entre parenthèses, est-ce que vous achèteriez des bitcoins, vous, par curiosité? Parce que je vous rappelle qu'ils ont commencé il y a à peu près 3 ans à 30 centimes de dollars, ah ouais, 30 non, cents. Et aujourd'hui, ils sont à combien? Entre 118 et 150 dollars. Enfin, 140 avant la chute de Silk Road et 118 aujourd'hui. 118.
Si tu suis le vieil adage boursier qui dit plus forts sont les risques, meilleurs sont les gains, les gains peuvent être énormes, mais les risques sont énormes.
C'est sûr, maintenant oui, mais à l'époque où il coûtait 30 centimes, les risques n'étaient pas énormes, on va dire.
Ben si, qu'elle ne soit absolument pas reconnue ou qu'il y ait un truc verroulé dans le truc et que ça perde toute sa valeur.
Si t'en achetais pour 50 euros, on va dire, c'était pas le risque.
Oui,
le plus
d'accord, mais moi je te parle pas, t'étais un petit joueur, Patrick.
Ah oui.
Moi, quand j'investis, c'est au moins 100 euros, quoi. je fais tapis, moi, monsieur.
Je comprends.
Disons que moi, le Bitcoin, je ne suis pas contre, mais de toute façon, si je devais en acheter pour ensuite les dépenser dans des services, c'est pas pour de la spéculation. Donc, c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas une offre de service qui ne puisse être réglée qu'en Bitcoin et que je trouve intéressante.
Ouais.
Sinon, j'ai aucun a priori contre cette monnaie.
C'est sûr. Mais il faut préciser que Bitcoin, encore une fois, ne sert pas qu'à ce genre de choses, hein. Il y a des gens, des développeurs, des web designers, très bien, et de plus en plus de gens qui acceptent les Bitcoins. Donc,
Et à San Francisco, on peut acheter des muffins.
Exactement.
Donc, plein de drogues.
Bon, parlons d'autre chose, quelque chose d'également très excitant, une sorte d'affaire un petit peu sombre de trafic de programmes trafiqués plutôt, c'est un petit jeu de langage, et de scandale au cœur de l'industrie tech avec Samsung. Il se trouve que on a appris il y a quelques jours que Samsung avait trafiqué ses appareils pour qu'ils soient plus performants dans les tests informatiques que leur font subir les publications de l'industrie.
Alors, oh mon Dieu!
Mais
autant les histoires de drogue d'un milliard, ça me fait rien. Mais là, Samsung qui triche dans les tests. Mais
oui, non, mais je sais, c'est scandaleux, c'est honteux. Alors, tu vas être d'autant plus déçu, Jérôme, que il se trouve que ça ne sont pas les seuls. Mais avant d'y arriver, détaillons un tout petit peu de quoi il s'agit. En fait, on le savait sur le Galaxy S4, il y avait la manière dont est programmé l'appareil. Faisait que quand on lançait certains programmes, le processeur tournait, je simplifie, hein, mais tournait plus vite pour donner de meilleurs résultats. Et on a constaté avec les premiers tests du Galaxy Note 3 que c'était la même chose, et en plus on les a un peu pris la main dans le sac. À partir de là, Anandtech, qui est à l'origine de l'histoire, a fait une série de tests, et il s'est trouvé que à peu près tous les constructeurs ont ce même genre de pratique, exception faite de, quand même là on a nos idoles qu'on peut louer, exception faite de Google et Apple. Donc quand même les deux grands exemples de...
Motorola
qui appartient à Google, tout à fait. Donc, mais oui, non, mais t'as raison
de signaler. C'est peut-être parce qu'ils savent pas faire, hein.
C'est possible.
Les porter aux ONU, hein. Ils y ont pas pensé, c'est tout, hein.
C'est possible. Mais donc.
Ne pas y avoir pensé, c'est dur, parce que quand même, c'est pas nouveau, mais bon. Ouais.
C'est vrai. Mais le pire de cette histoire, qui me fend le cœur, c'est que même sans ces optimisations, entre guillemets, le Galaxy Note 3 faisait quand même mieux que tous les autres concurrents du marché. Donc, c'est vraiment quelque chose de je ne vais pas dire incompréhensible, mais de vraiment décevant, on va dire. Bon, d'un autre côté, on le dit depuis maintenant, un an, deux ans, la puissance des processeurs, qu'ils soient le processeur central ou le processeur graphique, n'a pas une énorme influence sur l'utilisation de l'appareil. On est devenu, même pour les appareils mobiles, on est arrivé à un niveau de performance tellement élevé que, franchement, tel ou tel processeur, ils suivent tous plus ou moins la même courbe, et ça n'a pas vraiment une, ça ne fait pas vraiment une différence notable pour 95% des utilisateurs. Bon.
Mais toi, Patrick et Jérôme, qui avaient presque mon âge, ça vous rappelle peut-être que quand on avait des cartes graphiques, il y avait pareil, il y avait le même scandale avec Nvidia Matrox qui trichait, qui faisait
des
astuces pour que quand on déclenchait les fameux benchmarks, les CPU marks, etc., ils avaient des meilleurs scores.
C'est sûr, mais à l'époque, le plus... Ça, c'est effectivement une chose qui arrivait, qui se fait depuis longtemps, mais le plus décevant, encore une fois, dans cette histoire-là, c'est que, à l'époque, c'était important, les benchmarks. C'était l'époque où, telle et telle carte graphique était mise en concurrence, et les utilisations, les jeux, avaient besoin d'autant de puissance que possible. Aujourd'hui, bon, pour les ordinateurs, on n'est plus vraiment à cette telle concurrence débridée, et pour les appareils mobiles, c'est plus le cas non plus. Donc, oui. C'était même pas la peine d'être malhonnête. Leurs appareils sont excellents. Donc, bon.
Oui, effectivement, ouais, attends, 90-2000, le marketing, c'était des chiffres. C'est ça. Ouais. Tant de gigahertz, tant
mais
de.
Mais ça l'est encore un peu.
Oui, un petit peu, bien sûr.
Patrick, tu idéalises, mais aujourd'hui, il y a encore plein de gens sensibles, même si ce que tu dis est vrai, mais aujourd'hui, d'afficher un score qui va bien plus fort que les autres est une garantie d'un certain nombre de ventes. Hein.
Non, oui, mais ça, c'est vrai.
Pour moi, ça ne touche qu'une partie de ton marché, enfin, c'est quand tu vas t'adresser au mâle technophile, mais la c'est plupart ça. Des gens, pour un téléphone mobile, une tablette, ce qu'ils vont regarder, d'ailleurs je pense qu'ils vont d'ailleurs plus regarder la couleur avec les iPhone 5C par exemple, je pense que ça, pour la plus grande majorité des gens, ça parle plus que le nombre de gigaflops au mégabit.
Ça, c'est oui, je pense aussi. Mais bon, peut-être que pour le Note, enfin, le Galaxy S4, par exemple, est un mobile très grand public. Le Note 3, il va s'en vendre des camions entiers. C'est un petit peu surprenant, mais t'as raison. Peut-être aussi, Jérôme, que l'aspect marketing a pris un petit peu le dessus et ils se sont dit, si on peut dire, on fait 15% de mieux que notre premier concurrent, c'est possible.
Mais ça reste un des arguments. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, simplement qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Ils ont aussi donné leur excuse. Ils ont fait leur réponse, qui était un petit peu... Jérôme, tu l'évoquais tout à l'heure, avant qu'on commence le début de l'émission. Tu as lu la
oui,
réponse de Samsung.
La réponse, non, c'est pas... Enfin, non, nous optimisons nos processeurs, mais pour toutes les applications, pas que celle-là.
En fonction des applications, il y a des optimisations différentes.
On se demande pourquoi sur un benchmark, tous les cœurs se mettaient en route à fond. Tu avais le Note 3 qui se tordait tellement ça chauffait dès que tu lançais le benchmark.
C'est tout simplement parce que le benchmark est très bien écrit, très bien compilé et il tire le meilleur parti de toutes les ressources disponibles.
Ouais. C'est exactement. Bon, mais, pardon.
Un dernier truc parce que c'est Apple qui a commencé à les dénoncer un peu, non? C'est ce que j'avais lu.
C'est pas un type
de chez Apple qui a dit dans une interview « Ouais, mais les autres trichent avec les benchmarks », qui a mis la puce à l'oreille du journaliste.
C'est pas ce que j'ai entendu, moi. J'ai entendu que c'était un Intech.
En même temps, si le mec d'Apple avait la certitude que dans leur benchmark, ils ne trichaient pas, ils pouvaient balancer cette phrase-là en toute quiétude, peut-être. Sachant qu'ils prenaient aucun risque. Probablement que les autres trichaient.
J'en profite pour glisser. Moi, j'ai eu des résultats surprenants en benchmark en comparant les trois derniers iPhones.
Ah oui.
Ben, en fait, le processeur du 5C, il a 10 points de moins que le processeur du 5, alors qu'Apple dit que c'est le même. Bizarre.
Avec le 5 migré sous iOS 7?
Ben, en fait, dans Geekbench, après, je sais pas quel crédit on peut donner à Geekbench, dans Geekbench, les deux processeurs n'ont pas le même nom.
Ah bah non, c'est pas exactement le même.
C'est pas exactement le même. Et il a 10 points, mais 10 points, c'est infinitésimal. Hein.
10 points sur 2800.
Voilà. Bon, par contre, on voit que le 5S, il fait le double du 5, quoi. Sur Geekbench. Allez voir ma vidéo de benchmark sur Nowtech TV.
Voilà, si vous en voulez plus, Nowtech TV, il y en a une petite quantité de vidéos de test et de benchmark.
Et on refera un rappel à la fin de l'émission.
Bien sûr. Dans tous les cas, ne pleurons pas trop pour Samsung, puisqu'ils ont quand même des profits qui sont montés à environ 10 trillions de won.
Ouais, mais là aussi, ils ont boosté leur comptable.
10 milliards
de dollars. Ça fait combien en bitcoin?
Ils ont leur comptable.
En bitcoin, alors je vais te faire une conversion, je te dirai plus tard. Alors, on a un petit peu critiqué Samsung. Apple n'est pas vraiment exempt de critiques non plus. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont la nausée quand ils utilisent iOS 7 ?
Non, mais parce que j'ai que un iPhone 4 que j'ai passé en iOS 7 et quand t'es avec le 4, t'as pas l'effet 3D profondeur parallaxe.
c'est pas que l'effet 3D de profondeur, c'est aussi visiblement l'arrivée des icônes,
les animations,
d'ouverture. Ouais. Moi, je les aime bien, mais alors il y a apparemment, on va dire 5% de la population qui serait sujette à ce type de d'effet. Les mouvements d'iOS 7 vous donnent la nausée. Donc voilà, quand on disait que iOS 7 en fait vomir certains, en l'occurrence, c'est le cas.
Moi, j'ai survécu à l'Oculus, alors c'est pas iOS 7 et son parallax qui va me faire peur. Mais très sérieusement, Patrick, quand même, chaque fois qu'Apple sort un truc, maintenant, c'est devenu systématique, il faut qu'on trouve un scandale. Bah, alors maintenant, c'est le nausée game.
Je suis pas d'accord. Là, en l'occurrence, c'est pas un scandale pour le principe. Si ça touche vraiment 5% de la population, bon, il y a des gens qui s'habituent, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même intéressant de se dire que le nouvel OS fait vomir les gens, quoi.
Ouais.
Bon, c'est pas la fin du monde. Mais peut-être que le scandale dont tu voulais parler, c'était celui-ci qui est les capteurs de l'iPhone 5S donneraient des lectures inexactes et pas qu'un peu, genre la boussole, l'accéléromètre, etc., seraient inexactes à 5%, entre 3 et 5%.
À peu près, ouais. Même... je le confirme à 100%.
D'accord, donc toi tu fais partie de ceux qui ont un appareil affecté.
Moi par exemple, j'ai un logiciel de prise de photo qui affiche une espèce de bulle pour faire l'assiette de ta photo, pour que tu sois droit en photo, et le truc est complètement tordu. Donc toutes mes photos de test, elles sont tordues. Non, je te non, mais il y a un gros problème de calibration.
Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Bon, donc, espérons que ça pourra être corrigé en logiciel, par une mise à jour logicielle.
Surtout que moi, j'ai commandé un 5S.
Je me disais jusqu'à maintenant, à la limite, si vous le corrigez pas, c'est pas trop grave. Mais si Guillaume se commande un 5S, il faut le corriger tout de suite.
Oui, surtout
immédiatement.
L'autre problème a l'air constant, donc je pense qu'il suffit de recalibrer le logiciel.
Espérons. L'autre sujet qui est un petit peu moins marrant, c'est un chercheur allemand qui a trouvé un moyen de détourner une identité grâce au capteur d'empreinte digitale de l'iPhone 5S. Alors, c'est assez intéressant. On se doutait, enfin, on savait déjà qu'il était possible de simuler l'empreinte digitale de quelqu'un avec un iPhone 5S. C'est pas facile à faire, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire spécifiquement sur une personne spécifique. Mais là, l'application est suffisamment inquiétante pour qu'on s'y intéresse un petit peu plus. En l'occurrence, on parle de vol d'identité. La manière dont ça fonctionne, c'est que, je vais schématiser encore une fois, hein, mais je suis sûr que vous pouvez trouver de la documentation là-dessus. En gros, si on réussit à avoir cette fausse empreinte digitale, qui est pas facile à obtenir, on peut faire en sorte de remettre à jour le mot de passe d'Apple, qui va nous permettre d'accéder au mail Apple. Et à partir du moment où on a accès à ce mail Apple, ça veut dire que si la personne qui utilise l'iPhone utilise son email Apple pour les autres services, eh ben on peut avoir accès au service de remise à zéro de mot de passe de tous ces autres services. Puisque, comme on disait, la mise à jour, enfin le lecteur d'empreintes digitales peut servir à entrer son mot de passe, à vérifier son identité chez les services Apple.
Ce qu'il faut peut-être préciser avant que tout le monde flippe, le problème vient pas tant de limitation des mots de passe, parce que ça, oui, on sait que c'est faisable, mais bon, c'est compliqué. Ça vient plutôt du fait que sur l'écran d'accueil actuel de iOS 7, on peut, en trichant avec le truc mode avion, on peut accéder brièvement sans qu'il y ait de contrôle, brièvement pour recevoir le mail et changer le mot de passe, et que actuellement il y a déjà une parade. Il faut simplement enlever l'accès au mode avion sur l'écran d'accueil.
Oui, mais alors super, c'est. Bon, vas-y, non, Guillaume, j'entends que tu veux dire quelque chose.
Ouais, moi, j'avais lu rapidement cet article et pour moi il y avait rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que effectivement, c'est la combinaison de certains hacks. Donc, le fait de pouvoir récupérer l'empreinte et de faire un faux doigt pour pouvoir passer le fingerprint, qui, à mon avis, là, actuellement, c'est le nouveau buzz pour tout ce qui est côté sécurité, alors que le scanner d'empreinte n'a pas lieu d'être l'ultime sécurité pour protéger votre téléphone. Simplement, c'est l'accès le plus convenient.
Le plus pratique, tout pratique. À fait. Non, t'as raison de le souligner, mais il y a quelque chose de très différent quand même. Pardon, je te laisse finir, excuse-moi, Guillaume.
Alors, donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, avec ça, plus les différents problèmes, et à la limite après, dans la même logique que le hack de Matt Hanon, où à partir d'un accès, on arrive à tout détricoter. J'ai pas vu la subtilité, j'ai pas vu s'il y avait vraiment de nouveau.
Je vais te l'expliquer. C'est que la différence avec un mot de passe, parce que tout ça, si vous connaissez le mot de passe de l'utilisateur, vous pouvez en gros faire à peu près la même chose. Hein, c'est ce qui était arrivé à ce malheureux Matt Hanon. La différence, c'est que l'empreinte digitale est un moyen d'identification qu'on laisse à peu près partout. Vous mettez votre empreinte digitale partout. Alors que le mot de passe, si vous êtes sérieux, personne ne peut le trouver. Si, en théorie, il est possible de faire un mot de passe suffisamment fort pour qu'il soit vraiment protégé. Alors que pour ne laisser son empreinte digitale nulle part, il faut commencer à porter des gants en permanence. Évidemment, c'est pas réaliste. Donc, c'est ça la différence. C'est que le moyen de sécurisation utilisé par Apple dans son capteur d'empreinte, enfin dans son iPhone 5S, est un moyen d'identification qui n'est pas sûr à la base. Alors, ce que ça veut dire, effectivement, il faut pas paniquer. L'idée n'est pas que tout à coup ça va invalider toute l'utilité des capteurs d'empreintes digitales en général. C'est simplement que, comme tu le dis, Guillaume, c'est un moyen qui est un moyen utile pour le déblocage. Peut-être qu'il faudra des moyens de sécurisation supplémentaires pour ce type d'opération, ou simplement demander à voir les deux dans certains cas. C'est très important. Je finis, je te passe la parole. C'est très important aussi de comprendre que il faut aller lentement avec les nouveaux types de moyens d'identification et de sécurisation. Et là, c'en est un exemple flagrant. Il faut prendre les choses une étape à la fois, voir comment c'est reçu par le public et par les chercheurs pour pouvoir justement essayer de corriger ces failles une à une avant d'ouvrir la technologie à tout le monde. Donc c'est pas un truc à négliger, mais il faut aussi comprendre pourquoi les choses vont évoluent de cette manière.
Je suis pas tout à fait, même pas du tout d'accord avec toi, en fait, Patrick.
C'est simplement parce que t'as tort, hein, c'est pas grave.
Non, mais je sais, mais on
tort,
va hein. pas revenir
on
sur
tort.
Non.
Fils d'Odin.
On est passé à tort et à travers. Alors, déjà, partons sur le postulat. Je ne suis pas un espion internationalement reconnu. Voilà.
D'accord.
Je suis un quidam. OK?
Aujourd'hui. C'est ce que tu veux nous faire croire, mais.
Aujourd'hui, le problème de sécurité avec mon smartphone, il est plutôt pour moi, qui suis un quidam, que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule discrètement dans le métro et me fauche mon iPhone et prenne mes infos comme ça. Et quand tu dis que l'empreinte digitale est moins sûre que le code, je suis pas du tout d'accord pour les quidam. C'est-à-dire que me voler mon empreinte digitale, faut le vouloir. Si j'étais un espion, je suis d'accord. Un espion, c'est peut-être facile de prendre ses empreintes digitales parce que tu vas avoir d'autres espions qui vont aller récolter ses empreintes digitales.
C'est pas
rapport.
Du code que je parle, hein, Jérôme. Attention, ouais. C'est pas du code pour débloquer l'iPhone. On a deux utilisations du capteur d'empreintes digitales.
Ouais.
On a le déblocage de l'iPhone et l'identification pour le compte Apple.
Oui, là tu parles pour le déblocage, puisque le hack qu'il montre, en fait, le hack permet, en combinant une fausse empreinte digitale et un...
C'est pas le déblocage qui est important dans l'histoire, c'est l'identification au serveur d'Apple.
Ouais, mais moi je pense quand même aujourd'hui dans la vie de tous les jours qu'il est moins facile de choper l'empreinte digitale de quelqu'un que de choper ou de craquer un code. Voilà.
Bah, disons que la correction à apporter est relativement simple, c'est de laisser l'option dans certains cas d'avoir à la fois le capteur d'empreinte digitale et le mot de passe, ce qui revient à dire qu'il faut une authentification double facteur, à la fois quelque chose qu'on a ou qu'on est, oui. et quelque chose qu'on sait. Et ça,
sinon,
c'est un principe de
sécurité. Le problème spécifique tel qu'il était expliqué, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un 5S, la solution, elle est super simple. Vous allez dans vos réglages et vous faites désactiver les réglages de l'appareil sur l'écran d'accueil pour plus que, en faisant un slide vers le haut sur votre écran d'accueil. Bah, moi, j'en ai un. Je te garantis que tu peux pas passer.
En l'occurrence, si quelqu'un a ton empreinte digitale, il se moque que tu aies ou pas ce truc sur l'écran d'accueil.
De ce que j'ai vu, même si tu arrives à récupérer l'empreinte digitale, tout le monde ne va pas comme ça du jour au lendemain à réussir à ensuite faire un modèle.
Non, mais bien sûr, mais on parle de chercheurs et de problèmes de sécurité spécifiques.
Mais en fait, on reboucle sur le message d'origine du Chaos Computer Club quand ils ont montré le premier hack sur le Touch ID de d'Apple, la volonté de le message que Chaos Computer Club n'était pas de dire que l'iPhone n'était pas secure, n'était pas sûr. C'était la biométrie et l'authentification digitale n'est pas une solution de sécurité. Implémentée, mise en place sur l'iPhone ou sur un autre système, c'est quelque chose qui se falsifiera toujours.
D'autant plus qu'ils arrivent, sur d'autres systèmes. Je sais plus si c'était HTC ou quelqu'un d'autre qui avait annoncé l'arrivée d'un capteur d'empreinte digitale.
Dans 3 mois, ça serait sur les Android. Ça. Mais donc, en termes de sécurité, l'identification digitale, c'est pas du tout ça. Je pense que tous ceux qui ont un iPhone 5S professionnel, ils ont de la chance. Si leur société est un minimum portée sur la sécurité, ils vont faire un déploiement de masse qui interdira simplement l'utilisation de Touch ID et vont faire un code, etc.
Tout à fait.
Et il y aura probablement d'autres mises à jour qui vont verrouiller toutes les petites fuites qu'on peut faire sur l'écran.
Sans doute. Et on aura, a priori, de meilleures utilisations des capteurs d'empreintes digitales à l'avenir. Bon, passons au troisième sujet principal de cet épisode avec une collection de plein de petits sujets qui ont à voir avec le gouvernement. C'est une partie qu'on avait fait il y a quelques temps qui s'appelle « Affaires gouvernementales ». Je crois qu'on avait appelé un épisode par ce nom à l'époque. Eh bien là, c'est donc la troisième partie. On a toute une série de petites informations plutôt intéressantes sur les activités du gouvernement et les nouvelles législations, les nouvelles décisions. Alors, première chose, une info qui va plaire aux libristes et aux fans de Linux, la police nationale française est en train de terminer la transition de 37 000 ordinateurs vers Linux. Ça a commencé il y a quelque temps, il y a même presque 10 ans, en 2004, avec de la migration de logiciels de bureautique, ils sont passés de Word à OpenOffice en gros, et aujourd'hui on arrive carrément à la migration de l'OS dans son ensemble, et ils vont utiliser Linux. Super nouvelle, non ?
Ouais. Bien.
Ouais, mais est-ce que c'est plus une décision budgétaire que
technologique?
Il
y a les deux, mais l'aspect budgétaire n'est pas
pas du tout négligeable.
Mais oui, c'est très important. Et puis pour moi, je suis personnellement pas un super grand fan de Linux pour différentes raisons, mais quand on parle d'une machine qui est censée avoir certaines utilisations, moi Linux c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Et au contraire, il est parfait, plus sûr et moins cher, évidemment puisqu'il est gratuit, pour certains cadres. Donc en l'occurrence, moi je suis très content que la police nationale, qui a besoin de certains logiciels qui sont disponibles sous Linux, fasse cette transition. C'est parfaitement admirable.
Suite aux différentes révélations de Snowden, forcément, ça ne fait que valider le choix de partir sur, s'éloigner des produits américains.
Bon, là, la chose avait été initiée il y a bien longtemps, avant. Mais tout à fait.
C'était déjà une question qui était posée en ces termes il y a longtemps.
Tout à fait, ouais. Alors, l'Union européenne a obtenu des concessions de Google Recherche, qui va adoucir un petit peu sa position de quasi-monopole, mettre des logos d'autres moteurs de recherche dans les résultats de son propre moteur de recherche. Ouais. Alors, Est-ce que c'est l'Union européenne qui en fait trop? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait faire? Qu'est-ce que vous en pensez?
Quelle est la part de marché de Google?
Alors, en Europe, on est autour de 80%, si je ne m'abuse. 80 à 90%.
Donc, le monopole est quasi avéré. Donc, oui. Et à la limite, c'est dans la logique de ce qu'ils avaient fait avec l'Internet Explorer, qui était bundlé, enfin, qui était
vendu avec
l'OS, le Windows, voilà.
Tout à fait.
Donc, sinon, c'est logique.
Ouais. Ah, mais ouais,
je pense que Google, il trouve son intérêt, ça les fait passer pour des mecs cool.
Bah, franchement, je suis un petit peu déçu là. J'espérais de la controverse du ah, oh, c'est dégueulasse, mais Google, ils ne devraient pas devoir faire de la pub pour Bing. Mais en fait, bon, bah, vous êtes raisonnable, très bien.
Mmh. Bah, ah oui.
Bon, bah. Effectivement, si on est dans une situation.
Bah, de toute façon, ouais, c'est facile d'avoir de la mansuétude quand tu domines le marché.
Non, mais c'est sûr. Disons que, effectivement, moi, personnellement, je suis complètement immergé dans l'univers Google. Donc, je sais pas si le fait de voir Bing quelque part va
me tenter, ça m'arrive, peut-être. Ça me surprend, mais tantôt ça m'arrive.
Oui. Non, mais pourquoi pas, en fait, c'est tout à fait le problème de la situation dominante. S'ils ont une situation tellement dominante que les autres acteurs ne peuvent pas émerger et que ça nuit à la concurrence et à la concurrence sur le marché. Si le marché n'est pas sain, et ben il faut corriger. Et là donc c'est le cas. Donc très bien.
Alors, en fait, la chose la plus horrible que j'ai moi professionnellement, je manipule pas mal de serveurs de machines chez des clients. Donc et souvent par défaut, non seulement c'est Bing le moteur de recherche, mais la page d'accueil c'est MSN. Et là c'est ignoble. C'est-à-dire que tu es sur un serveur, tout d'un coup tu ouvres pour travailler, et là t'as toutes les news MSN et t'as l'impression d'avoir Gala Voici en même temps, c'est avec des trucs qui bougent partout, c'est énorme.
Je suis désolé, hein. Eh, franchement Guillaume, je souffre. Passons. Pour toi. La France a aussi sanctionné Google pour avoir contrevenu, je sais pas si je parle français, mais on va dire que oui, aux règles de vie privée. On vous avait parlé de cette action initiée il y a quelques temps parce que Google n'est pas assez clair avec l'utilisation des données privées. Là encore, bon, c'est la CNIL qui a frappé et elle est suivie de près par d'autres instances européennes. Là encore, je suis très fan de Google, hein, vous le savez, et si d'une manière générale, j'aurais envie de dire bon, c'est bon, c'est quoi cette attitude anti-technologie? On a peur de ce qui se passe, mais c'est la voie de l'avenir et de la modernité. D'un autre côté, je me dis, bon, bah, écoutez, s'ils contreviennent aux règles et que, effectivement, on est dans une situation où il est toujours bon d'avoir un équilibre des pouvoirs. Et là, en l'occurrence, c'est la CNIL dont le rôle est de protéger les données des Français, qui exerce son rôle, hein, et qui se fait entendre. Donc, bon, pourquoi pas. Tant qu'ils ne... J'ai pas entendu quelque chose qui me laisserait penser qu'ils en font trop, quoi. Donc,
qu'est-ce qui a été reproché exactement
Le manque de clarté sur l'utilisation des données que fait Google.
On leur donne énormément de données. Dans le terme de service,
c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pas clair et on ne sait pas combien de temps ils les gardent, où ils utilisent quoi, etc., etc.
Moi, je suis pas certain qu'il y ait un signe de l'équilibre des pouvoirs. J'y vois plutôt un Google qui fait un peu de relations presse en lâchant un peu certains trucs. Et
C'est quand même qu'ils cèdent. Ils sont obligés de céder un peu à la pression, même si c'est la pression de l'opinion publique plus que la.
On a vu que quand Google avait vraiment ses intérêts en jeu, on l'a vu avec l'histoire de la presse en Allemagne. Ils font.
Jérôme, mais tout n'est pas noir ou tout blanc. On ne peut pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse nier que si la CNIL n'avait pas haussé le ton, Google n'aurait pas tout à coup décidé de changer. Enfin, bon, en l'occurrence, ils changent pas les choses. Mais
la
CNIL hausse le ton, ils ont une amende. Donc, les choses sont en train de tourner. Peut-être qu'ils ne céderont pas. Mais on a vu que sur l'histoire des logos, sur l'abus de position dominante ou la position dominante. Bah, ils ont fait un geste qu'ils n'auraient certainement pas fait si les instances européennes les y avaient pas poussées. Tu vois Google un matin se dire « Bon, aujourd'hui on va être sympa, on va mettre le logo de Microsoft Bing à peu près partout sur nos pages. »
Bien sûr que non.
Non, enfin bon.
Par contre, ils sont forcés et ils le feront.
Oui, mais il y a d'autres choses où ils étaient forcés, où ils se battent. Enfin, ce que je veux simplement dire, c'est qu'ils choisissent leur bataille aussi.
Mais, oui, c'est normal.
C'est pas faux, évidemment, oui.
C'est normal.
Il y a des trucs plus ou moins graves pour eux. Ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans le viseur de pas mal de monde, donc il vaut mieux lâcher du lest sur des trucs pas graves. Mais par contre, si tu touches au nerf de la guerre, tu vas voir que Google, c'est pas the nice guy.
Non, mais bien sûr, mais personne n'est en train de dire qu'ils sont le nice guy. Au contraire, on est en train de te dire qu'ils n'ont fait ces choses-là que sous la pression des gouvernements.
Ouais.
Si on veut revenir à la question de la presse et de la pression qu'exerçait la presse sur Google, et ils n'ont pas... Enfin, ils ont cédé parfois, mais pas partout. En l'occurrence, je pense que c'était la presse et le gouvernement auquel ils étaient associés qui n'étaient pas dans leur rôle, ou en tout cas qui ne comprenaient pas l'évolution du marché et de la technologie. Donc, c'est pas toujours... Bon, autre chose, alors, le gouvernement européen, ou plutôt l'Union européenne, veut obliger les fabricants de téléphones portables à utiliser un chargeur universel. Et évidemment, ils sont tous prêts à le faire, sauf le chieur du groupe, Apple. Alors, on avait déjà entendu parler de cette histoire. Apple s'en était sorti par une pirouette qui était de proposer des adaptateurs qui allaient de leur câble propriétaire à du micro USB, ce qui fonctionnait. L'UE veut aujourd'hui que Apple fasse comme tous les autres et qu'ils aient dans leur boîte, ou en tout cas qu'ils fonctionnent avec un adaptateur micro USB classique. Et là, on va encore dire que c'est parce que je suis un affreux fanboy Apple, mais je suis franchement pas du côté de l'Union européenne. Sur le principe, pourquoi pas, mais c'est simplement que c'est idiot, hein, on arrive vraiment à des détails, mais les connecteurs Apple, surtout les nouveaux, moi je les aime bien, je les trouve pas mal.
Je les trouve beaucoup plus pratiques. Mais ouais. Après, pourquoi? Enfin, je suis assez d'accord, on n'a qu'à obliger Apple à mettre l'adaptateur, et puis après les gens choisissent.
Ah non, mais alors c'est ça le truc, c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait l'adaptateur. Ils veulent qu'il y ait, parce que c'est la deuxième étape maintenant, ils veulent que les chargeurs d'Apple soient directement au format micro USB.
Non, moi j'adore le Lightning en fait. Hein.
Bah oui, moi je suis assez d'accord.
Non, mais enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Mais avant tout ça, rappelez-vous l'époque où nous avions des téléphones et chaque téléphone, avec le même constructeur, avait son chargeur différent. C'était une horreur.
C'est horrible.
Insupportable. Et on vendait des trucs avec, au bout, il y avait 4 adaptateurs et tu choisissais. Ouais. C'était bon. Donc là, le fait qu'on maintenant on n'ait plus que 2 formats, Apple et les autres, c'est déjà un progrès. Et maintenant. Ouais. Je pense que la logique d'Apple, c'est que leur dock ne sert pas qu'à recharger le téléphone, mais offre d'autres fonctionnalités qui ne sont pas simplement un port USB. Mmh. Et cela, je pense qu'Apple va s'arc-bouter là-dessus, puisque bien effectivement, non seulement ils ont des patents dessus qui leur permettent de livrer, de vendre des licences pour les constructeurs d'objets, et puis ils justifient que ça fait des tas d'autres fonctionnalités vachement bien que personne d'autre ne fait. À moins que ce qui serait intelligent, à mon avis, c'est que l'ensemble des autres fabricants de téléphones associés à Apple fassent un format unique de connecteurs qui permettent à la fois de charger et d'avoir des fonctionnalités.
Ça n'arrivera jamais. Hein,
non, c'est... non, mais...
Mais c'est la seule logique.
Mais au-delà, autant je trouve parfois que les batailles autour de ça, c'est chiant et c'est stérile. Et moi, là où je suis d'accord avec Patrick, même si ça peut paraître ridicule, mais quand même, il y a un vrai plus produit à la prise Apple. Mmh. Au-delà de l'échange de data, hein, même dans l'ergonomie du truc, par rapport à une prise USB, c'est de l'ordre du détail, mais ça compte quand tu branches ton téléphone au moins une fois par jour. et moi, je serais pas très content si on obligeait Apple à mettre de l'USB sur les iPhones, quoi.
Du micro USB. C'est un petit peu dans une moindre mesure, l'un des avantages énormes des MacBooks d'Apple, c'est le MagSafe, le câble qui se décroche quand on qui est vraiment un design super intéressant. Donc,
c'est
vraiment pratique, quoi. C'est quelque chose. Donc, je vais pas dire subjectif parce qu'on a vraiment effectivement l'impression que le câble en question est meilleur chez Apple. Donc, mais c'est subjectif dans le sens, on veut, je pense qu'on est tous d'accord, on veut que tout le monde ait le même câble, sauf Apple. Mais vraiment, c'est ça, quoi, la conclusion, ma conclusion à laquelle j'arrive. Moi,
Samsung,
je veux bien que
paye des royalties à Apple et prenne le même.
Ah, d'accord, voilà. Ok, c'est ça.
Ouais, non, mais après, non, dans un monde idéal, Apple vendrait la licence Lightning et tout le monde passerait au Lightning. C'est mais idéal, bon.
Oui. Non, mais c'est vrai que, enfin, maintenant, si on veut redevenir un tout petit peu objectif, et je sais qu'il y a des gens qui pensent que on est extrêmement pro Apple. Je conteste totalement la chose. On apprécie Apple. Mais je pense qu'on reste quand même assez objectif. Il faut avouer que toutes ces dizaines de chargeurs différents n'avaient pas grand intérêt, et ils étaient juste différents pour le principe d'être différent et pour qu'on puisse vous le vendre de telle marque plutôt que telle autre. Chez Apple, il y a évidemment de ça, hein, ne nions pas l'évidence. Mais d'un autre côté, d'une part, l'universalité chez Apple et l'omniprésence d'Apple est quand même importante, c'est-à-dire que ce soit pour les iPad, iPhone, téléphone, il y a un type de chargeur, donc aujourd'hui c'est quand même relativement pratique. Et d'un autre côté, ils ont des fonctionnalités intéressantes. Si demain Samsung se mettait à faire un autre type de chargeur qui ait des fonctionnalités, je sais pas, disons que demain Samsung sorte un super chargeur par induction qui fonctionne avec tous les téléphones Samsung qui sont tous équipés de ce truc et que le chargeur fonctionne parce que c'est de la technologie propriétaire Samsung. On va pas obliger Samsung à utiliser du micro USB et à tout brancher. Bon, c'est un mauvais exemple parce que on pourrait avoir un câble, un port micro USB et le chargeur par induction en plus. Mais si ils avaient un système qui serait vraiment un avantage, ça serait dommage de les obliger à utiliser une technologie moins performante pour ces raisons-là. Surtout si Samsung avait effectivement inonder le marché et qu'on retrouve des chargeurs Samsung chez à peu près tout le monde et que ça soit de fait presque universel. Donc bon, bref, c'est un sujet intéressant. Moi, je pense que la solution au problème est celle qu'ils avaient déjà trouvée avant, c'est-à-dire d'avoir simplement un petit adaptateur qui fait qu'on peut utiliser n'importe quel.
Après, je serais assez d'accord que Apple nous le vende pas. Je sais pas combien.
Ah oui, tout à fait. Qu'il soit inclus dans la
boîte, ça, je suis 100% pour. Hein.
Complètement, complètement.
Ou peut-être qu'on aboutira à un modèle d'iPhone européen, iPhone, iPod et iPad européen avec un connecteur.
Ah ouais, mais là, je te dis, c'est un vrai moins produit.
Je suis d'accord. Par contre, il y a eu des précédents. Enfin, sur le marché américain, c'est l'iPhone 4 qui était en deux versions pour les deux Verizon deux réseaux. Donc, ils avaient deux versions de l'iPhone, en fait, en interne.
Ouais. Ah, mais ils ont toujours, hein, pour les appareils vendus dans différents pays, ils ont plusieurs versions parce que c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes vendeurs. Ils sont bloqués, etc.
Et sur le 5S, il y a différentes bornes. Enfin, oui, bref.
Non, le 5S c'est unifié, mais bon, bref. Bon.
Non, pas au niveau de la 4G, justement. Selon le pays dans lequel tu l'achètes, t'as pas les mêmes bandes.
Oui, mais
au niveau l'antenne. Mais au niveau l'antenne, au niveau de l'appareil même. Enfin, bref, bon.
Ça, non, mais le 5S justement, contrairement au 5, utilise une puce réseau qui a toutes les bandes 4G justement. Il en a une vingtaine différentes. Enfin,
vérifier parce que dans
le vérifie.
Ça n'est pas le cas avec l'iPhone 5, mais avec le 5S et le 5C, oui.
Ah, d'accord.
Amazon, alors protégeons les libraires. Amazon, on vous en avait déjà parlé, n'a aujourd'hui officiellement plus le droit de faire à la fois la ristourne des 5% et le transport gratuit. C'est une loi qui a été votée, une altération de la loi plutôt, votée à l'unanimité par les députés. Qui spécifie, alors on sait pas très bien ce qu'elle spécifie, hein. Franchement, écrite.
Excuse-moi, tu as dit qu'ils n'ont plus le droit?
Ils n'ont plus le droit de faire
Nous sommes en République française, le texte est passé devant les députés, il n'est pas encore passé au Sénat, il n'a pas fait la navette, il n'y a pas de décret.
Bon, excuse-moi Guillaume, ils n'auront bientôt plus le droit, si le Sénat ratifie le texte, de vendre des
livres. Et que l'on publie le décret.
Voilà. Mais alors, on en avait parlé à l'époque aussi, hein.
Oui.
La raison de cette loi, qui date de 80 et quelques, 81, était qu'il fallait protéger les libraires. Et pas simplement parce que les libraires ont besoin d'être protégés, hein. mais avec l'avènement des supermarchés, des hypermarchés, des mégamarchés et de la culture populaire de masse, on arrivait à des situations où certaines enseignes vendaient très bon marché des produits culturels, mais n'en vendaient qu'une très petite sélection. En gros, ils vous vendaient ce qui arrivait au top 10 ou au top 20, et tout le reste n'était pas dans leur rayonnage. Et comme c'était des gros volumes qu'ils vendaient et que les gens, évidemment, voulaient aller les acheter chez eux parce qu'ils étaient moins chers, eh ben les autres boutiques qui, elles, avaient un petit peu plus de variété et vous vendaient des choses qui n'étaient pas simplement le top 10, eh ben ils pouvaient pas suivre. Donc forcément, ça posait des problèmes. Et donc le but, on l'avait expliqué à l'époque, mais le but de cette loi n'était pas simplement de protéger les petits commerces, mais plus largement, de protéger la culture dans sa diversité. Mmh. Alors, il n'empêche que Amazon n'a plus le droit de nous vendre des trucs pas chers. Et ça s'applique aux autres aussi, hein, ouais. Fnac notamment. Scandale, honte. Bon, j'ai un petit peu tempéré les propos déjà en expliquant, mais...
Bah, moi, je suis vraiment plutôt de tendance libérale. Ça m'énerve quand l'État intervient dans le commerce à chaque fois. Autant Amazon, qu'on les ait dans le viseur au niveau fiscal et dumping et vente à perte, là, je suis 100% pour. Franchement, qu'on vote des lois pour régir des trucs de commerce et tout ça... Ça me fait toujours peur parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème d'Apple d'Amazon. on parle de fiscalité. Moi autant je suis là qu'on soit bien clair, je suis libéral, mais je trouve qu'il y a un vrai scandale au niveau du dumping fiscal de certaines sociétés américaines aux États-Unis. En Europe. Je suis 100% pour. Amazon, j'aimerais qu'on mette un peu le nez dans la fiscalité, qu'on arrange les choses. Mais après, intervenir sur, vous avez le droit de faire 5% sur un livre, mais pas de le livrer gratuitement. Je sais pas, j'ai l'impression de faire qu'on fait de la broderie, là.
Le problème était qu'il faisait 5% plus la livraison gratuite. Donc, ça faisait beaucoup moins cher. Ça fait plus que 5% qui est le maximum autorisé par
après, moi, je suis un vrai libéral. L'État n'a pas à intervenir dans le commerce. Mmh. Si les libraires n'ont plus de marché, il faut les laisser disparaître. C'est comme les gens qu'on envoyait dans les mines chercher du charbon, on n'a pas continué parce que plus personne n'utilise du charbon. Il faut laisser faire.
C'est pas vraiment un bon exemple, mais bon.
Oui.
Non, mais disons que
c'est quand même très. Je suis en discussion avec Jérôme là-dessus, mais je pense pas qu'on va non plus orienter la discussion là-dessus. Enfin.
Non, mais bon, c'était juste pour dire pourquoi on vote pas des lois sur les problèmes de fiscalité européens au lieu de faire des lois comme ça.
Bah parce qu'on n'a pas la main sur la fiscalité européenne aussi facilement. Disons que là où j'aurais... Moi, je pense que la culture, d'une certaine manière, est importante à protéger. Et ça m'inquiéterait un peu qu'on n'ait plus, de par l'existence des Super U et Méga U et Super Auchan, qu'on n'ait plus que le top 50 de disponible partout. Si on peut imaginer qu'à 10 ans ou 15 ans, ça pourrait avoir un effet comme ça. D'un autre côté, l'un des premiers vendeurs de livres en France, c'est la Fnac. Et jusqu'à preuve du contraire, la Fnac, ils ont quand même une sélection importante, pour le moins. Et d'un autre côté, Amazon, qu'on essaye de recadrer, je ne vais pas dire sanctionner, mais recadrer avec ce vote, est également l'une des boutiques, bon, il se trouve qu'elle est en ligne, mais c'est l'une des boutiques qui a la plus grande sélection d'ouvrages au monde, et de très loin. Donc, c'est vrai que on est quand même là dans une logique qui est, je vais pas dire critiquable, mais en tout cas discutable. Et je précise, là encore comme le fait Jérôme qui voulait être clair, je précise que je suis a priori plus pour la protection de la culture. Et s'il est nécessaire de passer par là, soit. En l'occurrence, l'exemple est peut-être un petit peu mal trouvé parce que Amazon offre à peu près tout et n'importe quoi. On peut vraiment tout y trouver, quoi.
Alors, moi, j'aimerais juste dire que parce que j'ai lu effectivement le bout de loi qui est assez imbitable.
Oui, pour le moment.
Et donc.
D'ailleurs, ça risque de poser un problème légal parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire.
Exactement. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'au départ, je disais, il est juste passé devant les députés. Le Sénat, à mon avis, vraisemblablement, ne le laissera pas en l'état. Donc, il faut plutôt regarder qu'est-ce qui ressortira du Sénat s'il ressort.
Je vais lire le bout de texte juste pour le plaisir, pour ce que ça vous n'aurez pas.
Ça me faisait penser au meilleur moment de la loi du Patriot Act, la première version.
Alors, lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livre, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit.
Ouais. Moi, j'ai compris qu'on pouvait faire 5% sur le montant de la livraison.
Exactement.
Si elle est gratuite.
Exactement. Je ne savais pas lire le français, les gars.
C'est possible. Bon, sujet suivant et dernier sujet de cette série affaires gouvernementales, le crowdfunding à la française. Et là, je me retourne vers Jérôme Kainborg, qui est un expert du crowdfunding.
Ah non, pas du tout. D'accord. Mais déjà, dire crowdfunding à la française, ça fait bizarre.
Bon, ok.
Donc, le financement participatif.
Alors, le financement participatif
national.
Fleur Pellerin, ministre des PME. Alors, elle s'est plongée sur le problème, et c'est une bonne chose, hein. On en parlait depuis un moment, et c'est évidemment un secteur d'activité florissant. Il y a eu des choses qui ont été annoncées et puis ça a été contredit. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Jérôme ?
Alors, de ce que j'en ai lu, hein, parce que j'ai lu un peu en pointillé la semaine dernière.
Ah bah super, on fait vraiment une belle bande d'experts, là.
Non, mais il y a d'autres sujets, je veux dire, la route de la soie, par contre, j'étais à fond, hein, sur la drogue, j'ai tout lu, hein.
Alors,
non, parce que justement, le crowdfunding, moi, j'y ai été intéressé il y a 2 ans, dans le cadre de No Watch, je m'étais intéressé. Effectivement, la législation française était très opaque et il n'y avait rien là-dessus. En France, il y a une loi qui dit que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour une société ou pour un projet, tu deviens de fait actionnaire, même s'il n'y a pas de papiers qui sont signés. Et alors, je résume ce que j'ai lu, c'est que on a eu un premier jour où tout le monde sur Twitter s'est mis à dire ouais, encore les politiques français veulent casser le crowdfunding. J'ai entendu des gens dire sur Twitter, ils vont limiter le crowdfunding à 250 €. Alors, tu sais, quand tu lis ça brut, tu te dis « Ah ben, on peut pas se financer plus de 250 € un projet. » Donc, c'est sûr qu'on va pas aller loin, quoi. Après, tu lisais un peu, c'était 250 € par personne. L'idée, c'est de protéger les gens qui donnent de l'argent contre des problèmes qui commencent à arriver et vont certainement arriver. C'est une évidence que dans le crowdfunding, il va y avoir des personnes malveillantes et des gens qui vont perdre tout leur bas de laine. Donc, les lois vont dans ce sens. Et de ce que j'ai vu du retour quand ils expliquaient le système, c'est plutôt bon parce que justement, on fait changer la loi française. Comme je vous l'ai expliqué au début, avant, il n'y avait pas de loi ou cette vieille loi qui disait quand tu donnais de l'argent, tu étais actionnaire, ce qui empêchait finalement d'emprunter de l'argent. Là, ils sont en train, bien sûr, de légiférer autour, mais au moins de rendre les choses possibles et légales et dans un cadre juridique et de protection. C'est bien évident qu'on va pas laisser les gens, et moi, je trouve ça pour une fois plutôt bien. Imagine une personne un peu vieille qui donne 10 000 € pour un truc qui est complètement crapuleux, qui a zéro protection derrière, ça se fait pas du tout dans un cadre bancaire.
Ouais, bon, ça peut personne... être... Une personne vulnérable n'a pas forcément besoin de Kickstarter pour se faire un petit peu arnaquer.
Non, mais on sait aussi que c'est une porte ouverte.
Bien sûr. Enfin, s'il y avait disons pas de cadre. Qu'en l'occurrence, le cadre me semble quand même un peu restrictif. On parle de 250 € par personne pour un total de 300 000 € pour le projet. Alors, c'est vrai que ça fait une somme conséquente pour un projet type associatif. Si quelqu'un veut lancer un vrai projet commercial important, que ça soit un produit culturel, enfin, on a vu des films qui étaient montés beaucoup plus haut. Évidemment, avec 300 000 €, ça va pas bouger beaucoup pour un film ou ce genre de choses. On a vu des projets où il y a de la fabrication qui est impliquée, des produits physiques qui ont besoin de beaucoup plus d'argent que ça pour faire du prototypage et de la production. Donc, il me semble que le cadrage pourrait être une bonne idée. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu trop restrictif, sachant qu'il y a une consultation publique qui est ouverte jusqu'au 15 novembre. Donc, les choses pourraient évoluer.
Oui, les 250, base... c'est un chiffre théorique hein, pour l'instant. Hein.
Bah, ouais, enfin, c'est comme bah, ça que le texte est écrit.
Oui, hein. Mais alors, c'est juste pour faire l'avocat du diable. En même temps, si tu donnes plus, bon, 250, je suis d'accord, c'est très bas. Mais si tu donnes plus, moi, j'estime qu'il devient normal au bout d'un moment que tu deviennes actionnaire et que ça se passe dans un cadre où si la société se met à vraiment marcher, bah, tu lui as prêté de l'argent. Comme un actionnaire, tu dois, voilà, bah, c'est.
Enfin, pas plus que sur Kickstarter. Je veux dire, sur Kickstarter, tu peux choisir ce que tu veux donner, tu as les récompenses. Et peut-être que, quelqu'un va dire, pour, tant de, tu sais, 550 euros, ben, on vous donne une action de, du million d'actions qu'on va, émettre
ah,
un
oui,
jour.
Oui. C'est, tu bah, vois, c'est, ça,
mais ensuite, c'est au choix de chacun.
Ouais. Ouais, j'aimerais qu'il y ait des éclaircissements là-dessus. Ouais. Mais bon. Ouais, mais oui. je pense quand même que c'est une
bon, ça
bonne
va dans le bon
chose.
Sens en tout cas. Je pense
ça va dans le bon
d'accord.
sens, mais il faut quand même, je pense qu'il y ait un cadre qui protège des abus mmh. qu'il va y avoir. Moi, il y a déjà eu des mini scandales crowdfunding, mais je pense que ça va pas tarder qu'il y a un truc qui se passe mal et c'est une évidence.
C'est possible, mais enfin c'est comme j'exagère, je grossis un petit peu le trait. Mais si tu vois une affiche, enfin une pub dans un journal où le grand Mamadou peut réparer ton PC par la pensée et que tu l'appelles pour lui donner 100 euros par carte bleue, bon,
ouais,
c'est
enfin,
un peu.
Patrick, moi je peux te promettre un stylet pour iPad qui va reconnaître tes 10 doigts et tu vas trouver ça génial. Tu vas donner de l'argent et je me casse aux îles Caïmans. Enfin,
bah,
pour
tu
l'instant,
sais, c'est pas parce qu'on limite
dans le monde de crowdfunding,
c'est
mais...
pas parce qu'on limite
Jérôme,
à 250 euros que.
Si tu fais ça, tu as tort.
Oui, absolument. Doublement tort même.
Mais en l'occurrence, ce type d'arnaque, il faut ça dépend ensuite de ton projet, de comment tu le présentes, de la crédibilité que tu peux donner à tes potentiels donateurs. Bon,
moi,
bref.
Arrêtons-nous à là. Il y a quand même une nuance, moi, que j'ai lue, hein, mais après, on n'a peut-être pas les mêmes lectures. C'est qu'au-delà de 250, ça sera possible, mais il y a un droit de regard de certaines instances pour voir si le projet, par exemple, est financièrement viable ou que c'est pas une arnaque, quoi. Voilà.
Bon. En tout cas, ça va dans le bon sens et on en saura plus d'ici le 15 novembre, qui est la date de fin de la consultation publique. Et écoutez, on arrive à la fin de notre première partie. La deuxième, je vous préviens, va être relativement courte. C'est la partie news et rumeurs où on passe beaucoup plus vite sur les différentes histoires dont on voulait parler. Vous savez quoi ? Je vais commencer par l'adieu de Steve Ballmer. On en a parlé la semaine dernière. Steve Ballmer a annoncé sa retraite de Microsoft et on a vu une vidéo où il, en fait, la vidéo de son comment on peut appeler ça, sa conférence
C'était pas son coming out, mais c'était sa sortie.
C'était sa sortie, c'était son going out, où il fait ses adieux à Microsoft, en fait. Il y a un stade rempli d'employés de Microsoft, et le spectacle presque était retransmis aux quatre coins du monde aux autres employés de Microsoft. Et franchement, il y a une émotion qui passe dans cette séquence.
Qui transpire, tu peux le dire.
Mais c'est marrant parce que Steve Ballmer est tout à fait connu, peut-être connu plus pour ça que pour le reste, pour son, on disait il y a deux semaines, ou il y a un mois, pour sa beaufitude. C'est vraiment un beauf. Il saute partout
cache,
en criant
carré,
développeurs, développeurs, développeurs. Ouais. Il fait le singe sur scène. Et là, franchement, il était complètement dans son personnage, dans son caractère, mais il a montré une émotion à son départ de Microsoft. En regardant la vidéo où il passe, mais c'est le truc le plus beauf de l'histoire, il passe « I've had the time of my life », le morceau de bébé et machin.
Dirty Dancing. Ah,
Dirty Dancing, Dirty merci. Dancing.
Avec Patrick Swayze.
Et voilà. Et franchement, c'est hyper émouvant. Moi, ça m'a. Enfin, c'est peut-être parce que il fait partie de mon histoire, ce type, hein, au même titre que d'autres personnages importants du monde de la tech. Mais ça m'a vraiment ému. J'ai presque écrasé ma petite larme, quoi.
Eh ben, Séverine de la voix dans la tête, elle a pleuré. Voilà.
C'est vrai.
Eh oui.
Mais écoute, je peux le dire. Alors, j'ai un petit peu pleuré aussi.
C'est... Moi, j'ai été profondément ému, mais pas par le discours, par le jaune de son polo, qui m'a absolument transpercé le cerveau.
Mais alors, il y a une raison touché, ce polo jaune. Parce que il est raccord avec la sortie du dernier Lumia, de ce que j'ai compris.
Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que, heureusement, il part, ils vont peut-être choisir d'autres coloris pour leur...
Bon, donc toi, ça t'a pas ému, visiblement,
non,
Jérôme?
Moi, j'ai été ému aussi pour les gens dont il tape dans les mains. Regardez la fin de la séquence. Il a dû péter 2-3 poignets. Parce que mes gens, ils tapent dans les mains des gens. Mais
tu es sans cœur.
On les voit échiqueter derrière. Non, si, c'est chouette. Bon, après, voilà, c'est un patron, c'est pas non plus.
Non, enfin, mais c'est un type, c'est plus que, c'est, alors, on va peut-être y venir, mais c'est plus qu'un patron. C'est un des pionniers, un des fondateurs, même si c'est l'aspect commercial, c'est l'un des fondateurs de notre univers tech. C'est avec Steve Jobs, Bill Gates et quelques autres, l'un des 10 personnages qui ont fait l'industrie tech telle qu'elle est aujourd'hui, qui ont construit cet héritage qu'on va transmettre à l'humanité. Nous, notre génération, c'est notre contribution à l'humanité. Putain. Non, mais peut-être franchement, l'informatique est notre révolution. C'est quelque chose de évidemment, je veux dire, de fondamental dans la société et dans la technologie. Et il fait partie des gens qui ont été des acteurs majeurs de cette révolution. Et il y a énormément de gens qui ont participé. Il y a très peu de gens qui sont arrivés au tout début et qui sont encore là aujourd'hui. Franchement, c'est...
Non, mais Patrick, je suis d'accord et convaincu. Je pense que on sort de la nausée, et je le dis, hein, la nausée Steve Jobs, paix à son âme, mais je lis trop d'articles, moi, sur... voilà, il y a un moment, oui, c'est des gens importants, après, je sais pas, je relativise un tout petit peu.
Mais... C'est que des gens.
Oui, non, mais tu peux... Il y a quand même... Bon, on peut simplifier. Steve Ballmer, c'est à Microsoft ce que Tim Cook est à Apple. C'est-à-dire que c'est la personne qui a non pas construit les produits, mais a construit le business, l'offre. Il l'a développé. Il l'a développé au sein de Microsoft pendant pratiquement 30 ans. Donc, alors après, maintenant, depuis quelques années où Microsoft stagne en point de vue actionnaire, du point de vue de l'action, on peut lui faire des reproches, mais c'est quand même quelqu'un qui a accompli un énorme travail. Compté.
Oui. La question qu'on peut peut-être se poser en une seconde, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour Microsoft qui
Ça, on en avait déjà parlé. Bon, si d'accord. Ça vous embête pas, je préfère ne pas repartir dans ce débat-là. Mais simplement, au niveau de l'émotion, Guillaume, toi, tu as...
moi, j'ai bien aimé. Enfin, je crois que c'était très émouvant. Et par contre, tout de suite, moi, mon sale esprit, j'ai eu... J'ai pensé à une autre musique qui collerait bien, tu vois, qui est années 80, qui est péchu comme ça.
Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous sortir?
J'ai pensé aux gens de Microsoft, à ce qu'il y a devant eux, tu vois, la route qui est tracée, ce qu'il faut pour la suite. Et la chanson de Bonnie Tyler, I Need a Hero.
Ah oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Microsoft a besoin de quelqu'un. Alors, on parlait du PDG de Ford qui serait en pole position pour aller chez
Microsoft.
C'est
assez intéressant, ça.
Peut-être, ouais. Moi, je suis pas convaincu, mais peut-être.
Le PDG de Ford, il a, au sein de Ford, qui fait un énorme travail pour que Ford ne soit pas qu'une voiture, mais une plateforme.
Mmh, tout à fait, ouais.
Et puis, il a sponsorisé le podcast.
Et aussi.
Donc, oui, c'est vrai. Ford est un gros sponsor de podcasts aux États-Unis.
Ouais. Oui.
Tu parlais de musique et je sais que tu voulais me poser la question, donc je vais y répondre. À quel morceau ça m'a fait penser? Moi, je ramène à Steve Jobs et à Bill Gates. Vous vous souvenez peut-être que quand ils ont eu cette interview mémorable chez All Things D avec Kara Swisher et Walt Mossberg. Ils avaient posé la question à Steve Jobs et Bill Gates de ce que ça leur évoquait, de ce à quoi ils pensaient quand ils pensaient à tout ce qu'ils avaient fait. Et Steve Jobs avait dit cette chose très émouvante. Il avait dit qu'il pensait à toutes les choses dans la vie en termes de chansons de des Beatles ou de... Times Are Changing.
Dylan,
merci.
Dylan, oui.
Bon sang. Et que là, en l'occurrence, ça lui faisait penser à la chanson des Beatles où les paroles sont Between you and me, our memories. Oui, c'est ça. Our memories stretch longer than the road ahead. Donc, nos souvenirs sont plus longs, sont plus grands que le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est vraiment quelque chose d'émouvant et on le sent très bien chez Ballmer là. Il arrive à la fin de cette première. Bon, il sera toujours chez Microsoft en tant que, enfin, au board, etc. Mais il arrive à la fin d'une immense partie de son aventure, de sa vie, qui est aussi, comme je le disais, l'aventure de l'informatique en général. Donc, bon. Allez, petite seconde de silence. Et puis, on continue avec. Peut-être qu'on pourra enfin utiliser nos appareils pendant le décollage. Des avions, le décollage et l'atterrissage des avions. Bon,
ça, en tout cas, sur les lignes américaines.
Voilà, sur les lignes américaines. Ça, oh, tu sais, je suis sûr qu'ils y viendront tous. Amazon pourrait sortir deux produits très bientôt. D'une part, une sorte de set-top box de Kindle TV autour de Noël. Et puis peut-être pour un peu plus tard, un truc un peu intriguant, un projet de téléphone avec écran 3D et... une série de caméras, c'est-à-dire quatre caméras sur le devant du téléphone qui regarderaient où sont vos yeux et qui déplaceraient les choses en 3D sur l'écran 3D en fonction de votre position, enfin qui pourrait avoir un écran vraiment 3D, quoi. Ça vous intéresse ?
Ah bah oui, et puis on comprend pourquoi Amazon va le faire, quoi. Il faut, bah, ça permet de regarder des produits en 3D. Mmh. Et ouais, ça, c'est le gros truc des retailers aujourd'hui, c'est la réalité augmentée et ce genre de choses.
Mmh. Ouais. En plus, Amazon, au départ, c'est pas le premier auquel on pense pour innover en termes de device ou d'interface. Et au départ, je comprenais pas cette annonce. Effectivement, ben, j'attends de voir le produit parce que, ouais.
Oui,
un potentiel.
C'est effectivement quelque chose d'intrigant, on va dire. Peut-être aussi certains ont pensé à, avec ces quatre caméras, on pourrait faire une sorte de Google Goggles, vous savez, cette application qui vous permettait de reconnaître n'importe quel produit et vous faire une recherche dessus avec la photo. Là, avec ça, une sorte de caméra 3D x 2, donc je sais pas, 6D ou au carré ou au... Bon, elle pourrait reconnaître les produits. Du coup, vous imaginez bien Amazon, vous êtes dans une boutique, vous regardez... ce truc, ça a l'air sympa, paf, une petite photo en 3D, et elle vous trouve le produit qu'elle vous vend moins cher, avec la livraison gratuite.
Bien sûr.
Voilà. Mais, sauf en France, parce que c'est pas légal.
Ouais, t'as pas le droit de livrer gratuitement si tu me fais 5%. Okay, on a compris. Mais ce que tu dis est quand même intéressant, parce que Amazon se googlifie de plus en plus. Google a été, y a d'autres boîtes qui le font, mais a été le premier à investir massivement et innover technologiquement sur des choses qui n'étaient pas son cœur de business, mais qui servaient son cœur de business. Amazon fait un téléphone pas pour nous rendre heureux, hein. C'est pour nous vendre du produit, quoi.
Ouais.
Mais voilà, ça fera quand même un chouette téléphone parce qu'on trouvera bien des trucs à faire avec les quatre caméras qui n'ont rien à voir avec Amazon.
C'est vrai.
Et Facebook fait des murs pour qu'on écrive dessus ?
Eh oui. Pour que tu donnes des infos.
Cyanogen, vous connaissez Cyanogen, messieurs, c'est cette version customisée spéciale d'Android. C'est une ROM Android qui est extrêmement célèbre comme étant la ROM purifiée, simplifiée, qu'utilisent tous les vrais fans de simplification. Voilà. Eh bien, ils sont en train de travailler avec des fabricants pour vendre des téléphones avec Cyanogen. Donc, Cyanogen deviendrait en fait une version d'Android disponible sur des téléphones à la base. Je voulais juste mentionner la chose pour les fans. C'est vrai que c'est plutôt une initiative intéressante. Et puis, une autre chose, BitTorrent serait en train d'expérimenter avec un client de chat, un client de discussion sécurisé. Donc, de la même manière que BitTorrent utilise cette technologie pour l'échange de fichiers ou la transmission de fichiers en direct avec BitTorrent Live qu'ils essayent depuis quelque temps, eh bien, il y aurait un client de chat qui ne passerait pas par un serveur centralisé. Ça pourrait être intéressant aussi.
Ah bah pour relancer le marché de la drogue, oui.
Par exemple, peut-être que pour revenir à Silk Road, ça sera l'union entre BitTorrent, Bitcoin et Tor, ça serait une sorte de triumvirat sacré de la piraterie.
Oh,
c'est merveilleux. Bon, je pense qu'on a fait suffisamment long. Est-ce qu'il y a eu un sujet parmi les nombreux que j'ai relégués au fin fond du document de notes, comme les commentaires de YouTube qui seront bientôt sur Google+, ou ce genre de choses que vous voudriez évoquer, ou alors on est bon et on s'arrête.
Moi, je suis très content que YouTube ait un nouveau système de comments parce que franchement, c'est naze actuellement. Et il va falloir suivre la rentrée en bourse de Twitter parce que ça révèle pas mal de choses sur cette société. Voilà, c'était les deux trucs qui étaient intéressants, je trouve.
Non, moi, je vois juste que tu fais référence au dernier podcast de Steve Gibson, Security Now, que je n'ai pas encore écouté et je me doute que ça va être très bien.
Alors, écoute, pour les gens qui sont intéressés par les solutions de sécurité informatique, Steve Gibson, qui est un grand chercheur un grand connaisseur de la sécurité informatique, qui fait une émission sur le réseau Tweet, que j'évoquais au début de l'émission, qui s'appelle Security Now, a évoqué a expliqué dans sa dernière émission un système qu'il a imaginé pour une identification entièrement sécurisée et extrêmement simplifiée. Ça s'appelle Squirrel, comme un
écureuil.
Voilà, comme un écureuil. C'est SQRL pour, que je dise pas de bêtises, Secure QR Login ou Simple QR Login, je sais plus. L'un des deux. Donc c'est SQRL, c'est ça, Secure QR Login. Et c'est un système qui, en gros, je vais pas vous faire tous les détails parce que c'est très compliqué techniquement. Quand vous voulez vous loguer sur un site web, vous êtes à votre ordinateur. Et le site web vous dit alors pour vous loguer, vous voulez vous loguer, vous n'avez pas besoin d'avoir votre mot de passe, nom de code utilisateur, tout ça. Il vous affiche un QR code. Vous scannez ce QR code avec l'application Squirrel sur votre téléphone et immédiatement, sans avoir tapé quoi que ce soit d'autre, le site sur votre ordinateur comprend que vous êtes vous et que vous avez bien utilisé les choses et vous permet de vous loguer. Il vous logue immédiatement. C'est-à-dire que la procédure de login, c'est je vais sur la page de login, je ne tape rien du tout, je scanne le QR code et je suis logué. Alors, il y a énormément de choses qui vont autour. Si ça vous intéresse, allez écouter le podcast en question. Je répète, c'est Security Now sur le réseau Tweet. C'est hyper intéressant. Ceux qui s'y connaissent un petit peu auront compris qu'il s'agit d'une série de caractères générés dans une URL avec une clé publique et une identité associée, etc., etc. Et l'autre chose extrêmement intéressante, c'est que il livre cette idée en open source, et il veut que la chose se développe en open source complète. Il n'est pas propriétaire, enfin, il ne veut pas garder la propriété de l'idée, et il y a déjà une communauté autour de cette idée. Il est entièrement transparent avec tout ça, et c'est tellement simple qu'au final, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Et c'est tellement bien fait et en train d'être raffiné et amélioré,
étouffé,
puisque c'est public, étoffé, mais non seulement étoffé, mais en plus amélioré parce qu'il y avait des petits problèmes dans certains cas auxquels il n'avait pas pensé, qui sont en train d'être étudiés par le public avec qui il partage ces informations, que il n'est pas impossible que ça devienne véritablement un standard ouvert à terme.
Parce que le projet, ce que j'en savais, c'est que ça soit aussi une RFC, enfin, c'est-à-dire un standard de l'Internet.
Exactement, oui. Et il n'est pas impossible que ça se produise. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Effectivement, c'est tout à fait passionnant. Je l'avais relégué au fond du document parce que c'est un petit peu compliqué et je pensais que ça n'intéresserait pas forcément tout le monde. Mais t'as bien fait de l'évoquer, Guillaume, parce que effectivement, c'est quelque chose dont on risque d'entendre parler à l'avenir. Donc, si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure l'émission. Avant de faire ça, évidemment, je vais demander à nos deux co-animateurs qui m'ont fait l'immense plaisir et l'immense amitié de venir dans le Rendez-vous Tech, de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si on veut en savoir un petit peu plus sur vos activités quotidiennes. Je dis quotidiennes, hein, ça veut dire que...
À tous les jours, quoi. Ah, oui. Guillaume, à toi.
Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter quand je tweete... at popgovzza, popgovzza, c'est très simple. Et sinon, plus simplement, dans le podcast La Voix dans la Tête, lvdlt.com. Et c'est vrai que là, on est un petit peu en suspens. On a eu différents problèmes techniques et organisationnels et organiques. Et on va reprendre bientôt. Voilà. ça c'est la bonne nouvelle. Et puis d'ailleurs, vous allez aussi me retrouver, moi et Séverine, du même podcast, dans La vie secrète de Colibacille, le feuilleton audiophonique à venir par Walter Proof, de l'Inaudible.
Magnifique. Et pour toi, Jérôme ?
Eh bien, moi, alors Twitter de moins en moins, mais par contre, vous pouvez suivre le Flipboard de Nowtech TV. Vous allez sur Flipboard, vous tapez Nowtech TV, tout attaché, et vous trouverez des infos que je relaie tous les jours, enfin les articles que j'ai trouvés intéressants. Et sinon, si vous voulez voir des tests vidéo d'applications et de choses comme les iPhones que je suis en train de tester en ce moment, c'est sur Nowtech.tv. Cette fois, il faut mettre un point entre Nowtech et TV. Et vous tomberez sur ma page YouTube, en fait.
Et tu as un super hack iPhone, je crois.
Oui, non, j'ai trouvé une astuce sur les iPhones que j'ai pas. Enfin, j'ai vu dans certains endroits, j'ai trouvé comment on bloquait l'autofocus avec le nouveau système iOS 7.
Incroyable.
Donc, si vous voulez savoir comment bloquer votre autofocus, parce que c'est très important parfois de bloquer son autofocus, eh ben regardez les vidéos qui ne sont pas encore sorties parce que j'ai de moins en moins de temps pour
les
tourner.
Mais quel teasing incroyable, Jérôme. Mais t'es un vrai professionnel. Hein, ça
ah, c'est à fond.
Bon, et pour ma part, vous le savez, c'est sur Twitter, @notpatrick, hein, c'est très simple. Vous pouvez aussi trouver d'autres émissions comme par exemple Upload ou encore Positron sur le site où, qui héberge toutes mes émissions. Il s'appelle frenchspin.com. Oui, c'est ça, je suis plus tout à fait certain. Et évidemment, si vous voulez nous laisser des commentaires que sur le site pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ce qu'on a bien fait ou pas bien fait ou même mal fait, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours intéressant d'aller discuter avec vous après les émissions, ça compte énormément pour la vie de la communauté. Ce qui est important aussi pour que d'autres personnes nous découvrent, vous le savez, c'est d'aller sur iTunes et de nous laisser une note et ou un commentaire. Ça permet à d'autres personnes de découvrir l'émission plus facilement. Donc, on vous remercie chaleureusement si vous choisissez de le faire. Ça prend 2 minutes et ça fait plaisir. Et bien, sur ce, messieurs, on va se quitter. Merci encore d'avoir été avec nous. Et on se dit donc à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Bye bye.